Bernard Deldic.
Bonjour. Depuis la publication de son premier livre, son premier essai, d'ailleurs prémonitoire, publié en 1976, La chute finale, essai sur la décomposition de la sphère soviétique, Emmanuel Todd, notre invité aujourd'hui, n'a jamais quitté la scène intellectuelle dont il est devenu un des acteurs principaux. Au contraire, chacun des livres de ce véritable anthropologue qui mêle les statistiques dans ses travaux et les sciences humaines alimente les débats et ses prises de position ne passent pas inaperçues, d'autant qu'il ne déteste pas la provocation. C'est le cas de son dernier ouvrage en date qui connaît un succès de librairie. Il s'intitule « Les luttes de classe en France au XXIe siècle ». Ce livre est publié aux éditions du Seuil. Marx n'est pas loin, mais un Marx sous surveillance statistique, note-t-il. Selon Emmanuel Todd, Macron et les Gilets jaunes ont ouvert une page nouvelle de l'histoire de France qui mêle retour des luttes sociales et apathie politique, sursaut révolutionnaire et résignation devant les dégâts de l'euro, regain démocratique et menace autoritaire. Rencontre donc avec Emmanuel Todd dans ce nouveau numéro du magazine Idées, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde, un magazine que vous pouvez retrouver, podcasté sur votre moteur de recherche préféré, sur le site de la radio. Vous pouvez aussi vous y abonner et nous écouter sur l'application RFI Pure Radio. Bonjour Emmanuel Todd.
Bonjour.
Je suis ravi de vous avoir à ce micro. La France est votre sujet d'étude dans ce livre, mais je précise qu'outre l'URSS, vous êtes intéressé dans vos recherches, dans vos livres à l'Europe, aux structures familiales dans le monde, aux États-Unis également, aux révolutions arabes. Donc c'est une curiosité tous azimuts. Vous voyez le monde pas seulement finalement à travers les chiffres, les courbes, les statistiques.
Oui, enfin regarder des statistiques, compulser des recueils statistiques... Et presque un hobby pour moi, c'est un plaisir. C'est-à-dire, je me souviens quand j'avais fait le diagnostic d'une chute à venir du système soviétique, oui. C'était simplement, j'étais à la bibliothèque de l'Institut national d'études démographiques. J'étais étudiant à l'époque encore, enfin chercheur, mais étudiant. Et je regardais des statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. J'étais tombé sur un taux de mortalité infantile qui montait, puis qui disparaissait. Et je continue à vivre comme ça. Donc, je continue à regarder des chiffres. Pour le plaisir. Je dirais que ma vision générale du monde a fini par cristalliser quand même, parce que ma spécialité, c'est les structures familiales traditionnelles. Et donc, j'ai été amené à définir une sorte de loi associant ces structures familiales traditionnelles au type d'idéologie qui apparaît dans la phase de modernisation, quand les gens apprennent à lire et écrire essentiellement, mais aussi quand la fécondité baisse. Et j'ai fini par connaître toutes les structures familiales du monde. C'est-à-dire, ça va au-delà des pays. C'est-à-dire, je peux descendre au niveau régional dans ma tête. Et donc, j'ai une sorte de vision du monde. Les gens ont des planisphères dans la tête quelquefois, etc. Moi, j'ai ça, mais c'est les structures familiales. Donc, je peux me promener là-dedans. Et tout événement qui arrive, pour moi, se passera sur fond d'une structure familiale que je connais.
Et ça vous permet de comprendre finalement le monde.
La famille est un révélateur extrêmement puissant parce que alors la thèse franchement n'a pas été globalement acceptée par les milieux universitaires. Elle a été rejetée violemment comme une insulte à la liberté humaine. Bon, quelque part ça gêne l'idée d'une détermination des conduites par des habitudes familiales. Gêne les gens ou les universitaires de culture individualiste. Ils veulent être libres, ils veulent se sentir libres. Alors au Japon, non, je suis très respecté, connu et considéré comme un type raisonnable au Japon. Mais partout, les gens ont une famille. En fait, les gens, je dirais normaux, savent que la vie familiale est importante et que ça doit apparaître en lien avec des conduites économiques, politiques, etc. Donc finalement, la thèse est bien passée, mais... ou passe bien, mais à l'extérieur de l'université.
Cette spécialisation, cette passion même pour les structures familiales, Emmanuel Todd, vous font aussi vous nourrir de sociologie, voire de philosophie. Vous citez dans ce livre des essais de sociologues, de philosophes qui complètent un peu cette vision.
C'est un truc, vous voyez, dans votre présentation, très sympa par ailleurs, vous m'avez qualifié de aimant la provocation. Moi, c'est pas du tout comme ça que je me vois. Moi, je me vois comme un chercheur. Et un chercheur, c'est un type qui doit, pas comme un intellectuel, comme un chercheur. Et un chercheur, c'est un type qui doit trouver des choses nouvelles. Et donc, une chose nouvelle va apparaître comme une provocation,
Mais
vous voyez, par définition.
Et j'ai lu assez de vos livres, pas tous, Emmanuel Todd, pour savoir qu'au hasard de phrase, il y a quelquefois des choses un peu curieuses. Enfin,
je reconnais.
Bon, vous parlez des crétins diplômés, par exemple, dans les classes supérieures, dans ce livre.
Non, mais ça, c'est un livre qui est pour une part polémique, mais dans ce que je fais, la distinction, je crois, entre la phrase polémique intentionnelle et le fond intellectuel, c'est toujours très clair. On sait où on est. Quand je calcule un coefficient de corrélation, on sait que c'est ça. Et quand je fais une mauvaise blague, on voit que c'est une mauvaise blague. Vous voyez ? Mais il faut bien voir que même quand je suis dans le registre du sérieux purement scientifique, ben pour moi, le bon scientifique est quelqu'un qui aboutit à des choses qu'on n'avait pas envisagées. Donc, il surprend. Et je dis des choses surprenantes qui sont considérés comme des provocations. Mais vous imaginez, regardez, un chercheur arrive, vous dit, écoutez, moi, je veux pas d'histoire, je veux bien être payé à vie par le CNRS, mais si ça vous dérange pas, je vais éviter de trouver des choses pour ne pas provoquer tout le monde. Ce serait pas sérieux. Je veux dire, moi, j'ai été payé par l'État à l'INED pendant une bonne partie de ma vie.
L'Institut national des études démographiques.
Oui, et donc je trouve que arriver avec des représentations de l'histoire, de la société un peu nouvelles, qui surprennent et qui apparaissent donc comme des provocations, ben ça me paraît justifier mon salaire, en fait, ou le salaire que j'ai eu, et ma retraite.
Emmanuel Todd, parlons des luttes des classes en France au XXIe siècle. D'ailleurs, le titre résonne étrangement.
C'est tout à fait explicite. C'était...
Marx.
Marx, oui, mais si vous voulez, moi j'ai un rapport à Marx qui est, je dirais, de type filial. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, moi j'étais membre du Parti communiste, je suis entré dans la réflexion historique par Marx. J'ai jamais tellement aimé ses textes économiques. Le Capital, pour moi, c'est pire que de la scolastique médiévale. Mais les textes historiques de Marx sur la France, le 18 Brumaire... et puis avant ça, les luttes de classe en France, c'est pour moi des trucs cultes que je relis toujours avant de faire des essais un peu polémiques comme celui-là. Mais ensuite, toute ma carrière de chercheur a été tournée contre le marxisme. C'est-à-dire dans le marxisme, vous avez l'idée d'une interprétation économique des phénomènes historiques. Et moi, j'ai dit non, ça marche pas. Ça marche pas. La Russie, il y avait pratiquement pas d'ouvriers quand elle a fait une révolution communiste. La Chine, pareil. Et moi, j'ai dit non, les structures familiales, la famille communautaire, le père, ses fils, un héritage égalitaire, ben ça existait en Russie avant la Révolution, ça existait en Chine, ça existait au Vietnam, ça existait en Serbie, et ça permet d'écrire quelque chose. Et donc, j'ai fait toute ma vie dans une sorte d'anti-marxisme, mais de type pour lequel le grand barbu reste une figure paternelle et un modèle, un style. Vous voyez, c'est un style, et puis le style... Je m'installe à la bibliothèque du British Museum à Londres, je fais mon truc, je me moque de l'université, ça me plaisait assez. Et là, il me semble qu'on revient dans une période de baisse du niveau de vie où les conflits de classe reprennent de l'importance, ça ne veut pas dire que les structures familiales à l'échelle planétaire ne gardent pas leur importance, ben, je me suis dit, il faut s'adapter, moi je suis aussi un empiriste de tradition anglo-saxonne, ben, il faut reprendre des concepts de Marx, de lutte des classes, spécialement pour la France. Spécialement pour la France. Donc peut-être que je termine, je ne sais pas si c'est une apothéose ou une explosion en vol, mais je termine peut-être comme j'ai commencé.
D'ailleurs, vous dites que la lutte des classes est essentiellement une affaire française.
Ah, c'est-à-dire, pour moi, je vois la lutte des classes, c'est une chose que je laisse encadrer par l'anthropologie. C'est-à-dire, des classes sociales, vous en avez partout. Il y a des classes sociales en Angleterre. Elles sont tellement fortes que les gens parlent des anglais différents. Il y a des accents différents. Les classes sociales aux États-Unis, il y en a, mais c'est un ordre un peu perturbé par le racialisme américain, puisque la question noire est beaucoup plus importante pour eux que pour la question sociale, encore que maintenant, avec la montée des inégalités, c'est plus clair. Mais en France, en Allemagne, une sorte d'intégration verticale de la société qui fait que la lutte des classes ne s'impose jamais, c'est Hitler qui a gagné, c'est pas le Parti communiste allemand pendant la crise. Mais la France, il y a ce fonds familial libéral égalitaire qui prédispose à la révolte et surtout qui permet de penser l'égalité entre les hommes et entre les classes comme un bien a priori et qui fait que la lutte des classes, c'est quelque chose de très français. Donc ça s'applique, quand je dis les luttes de classe en France au XXIe siècle, pour Marx aussi, c'était en France au départ. Pour moi, l'erreur de Marx, c'est d'avoir voulu généraliser le concept qu'il a trouvé chez des historiens français, généraliser le concept de lutte des classes à la planète.
Alors, pour bien comprendre votre démarche, à ceux qui ne le sauraient pas, Emmanuel Todd, il faut préciser que vous êtes contre l'Europe de Maastricht. Enfin, vous êtes un profondeur de l'Europe de Maastricht et de l'euro aussi. C'est au cœur, d'ailleurs, de votre livre. Vous écrivez, en 1992, la France a voté à une courte majorité le traité de Maastricht. Un quart de siècle plus tard, l'échec économique de l'euro est absolu. Et vous poursuivez un peu plus loin. Comment un échec économique aussi formidable peut-il s'accompagner d'une acceptation de plus en plus forte de ses conséquences ?
Oui, c'est ce que j'appelle être honnête. C'est, comme je dis, ce livre est un livre de vaincus. J'ai toujours pensé que l'euro ne marcherait jamais, pour des raisons de diversité anthropologique, familiale et religieuse de l'Europe. Et puis, ce qu'on constate empiriquement, c'est que l'euro a été fait, les classes dirigeantes s'y sont accrochées, ont accepté la destruction du tissu industriel français, ont accepté beaucoup de choses, mais l'opposition est tombée. Je me suis dit, acceptons la réalité, ces deux faits, essayons de voir comment l'évolution de la société française entre 1992, le vote du oui à Maastricht, et 2018 ou 2019, la révolte des Gilets jaunes, comment cette société a évolué.
Le plan social, sur le plan politique, pour en venir aujourd'hui à la crise
J'ai balisé large et très vite, puisque le livre a été fait d'une façon très particulière, puisque j'ai fait toutes les recherches et je dictais les chapitres un par un. Enfin, je faisais des conférences de 2 heures à un ami, Baptiste Touvret, qui me faisait une première mise en forme. Ensuite, j'ai tout repris.
Ça, c'est original sur le plan...
Ça permet surtout une rapidité d'exécution, parce que le livre balise très large, mais il a été fait en 4 mois quand même, ce qui est... pour moi, relève du tour de force, honnêtement. Hein. Je ne dis pas ça pour moi.
Surtout que c'est un livre dense, avec beaucoup de cas, de chiffres,
de calculs. Ouais.
Et d'ailleurs, vous dites que vous pouvez vous contredire d'ailleurs d'une partie à l'autre.
C'est pas tellement se contredire.
C'est-à-dire d'avancer des hypothèses que...
Dans des faits, c'est-à-dire que tous les faits, tout ce qui est examiné, ne sert pas forcément à l'interprétation finale. Donc, par exemple, le vieillissement très rapide de la population, depuis Maastricht, bien entendu, ça sert à l'explication finale. Mais je dis que, par exemple, ce que je mesure de la baisse du niveau éducatif dans le livre ne va pas servir à l'explication finale, même si c'est très intéressant pour le futur, parce qu'en fait, la baisse du niveau médian éducatif, je ne la vois venir pour l'ensemble de la population qu'en 2030. Donc plus tard, donc on ne peut pas attribuer, mais c'est quand même très intéressant d'observer cette baisse du niveau éducatif.
Mais le constat est assez grave, Emmanuel Todd, le vôtre dans ce livre. Vous écrivez « La vérité ultime du moment est sans doute que la société française n'a jamais été aussi homogène dans son atomisation et ses chutes, avec au sommet une caste de vrais riches ».
Oui, alors le modèle entre en contradiction, ça a été noté par beaucoup, de façon presque exagérée, avec les représentations les plus récentes, en fait. Je pense au modèle de Guy Louis ou au modèle de mon copain Jérôme Fourquet, avec qui j'ai débattu d'ailleurs, avec qui j'ai travaillé.
L'archipel français.
L'archipel français, qui était un immense succès.
La France périphérique.
La France périphérique, c'est vraiment... Et je dirais que ces modèles... d'une société française fragmentée ou archipélisée sont les représentations dominantes. C'est ce qui domine. Mais pour moi, c'est la domination d'une fausse conscience. C'est-à-dire que c'est pas ça qui se passe. Et moi, tout ce que j'ai observé dans mes indicateurs de mouvement, c'est des phénomènes d'homogénéisation de la société française. C'est-à-dire, alors... ce qui va être commun avec l'archipel français de Fourquet, c'est cette idée de disparition finale du catholicisme. Mais la disparition finale du catholicisme, bon, ça désorganise le système politique, mais ça veut dire que les deux France, la France laïque du centre et la France catholique de la périphérie, n'existent plus et que sur le plan religieux, jamais la France n'a été aussi homogène. Alors, j'étudie la différence arabo-musulmane qui existe et que j'évalue comme moins importante qualitativement, quantitativement, que ce qui pouvait exister entre la Vendée et la Seine-et-Marne. Mais dans l'ensemble, sur le plan religieux, la France n'a jamais été aussi homogène. J'analyse même, je procède d'une sorte de ce que j'appellerais un harakiri partiel, puisque j'avais beaucoup travaillé depuis l'invention de la France, que j'avais faite avec Hervé Lebras, sur la diversité des cultures régionales ancrées dans les familles différentes. Et ce qui permettait de dire que le sud-ouest de la France restait une région de famille souche, comme l'Allemagne ou le Japon, et le bassin parisien, une région de famille nucléaire, comme le monde anglo-américain, c'était des écarts de fécondité très importants. 1,4, 1,5 pour le sud-ouest, 2 pour le bassin parisien. Et là, une relecture des indicateurs de fécondité montre que ces différences sont abolies. Donc il n'y a plus de diversité régionale, et c'était cette diversité régionale qui organisait finalement les oppositions politiques en France. Vous prenez la baisse du niveau éducatif chez les jeunes, ce qui quand même, bon, alors je reconnais que ça n'est pas très réjouissant en soi,
non,
puisque les études les plus récentes qui mesurent la capacité en calcul à 10 ans...
Le classement PISA, par exemple.
Il y en a d'autres. PISA, je ne l'ai pas utilisé parce que c'est du comparatif international qui... c'est plutôt... Ce qui m'intéresse, là, c'est plutôt les études faites de la même manière, en France même, à diverses dates, et qui permettent de suivre des cohortes. Et donc, on voit tomber la capacité en calcul. Mais je dirais, avec une note d'espoir, si on peut dire, car je suis plutôt du côté des gens qui croient en l'égalité et en la démocratie, chez les enfants de toutes les catégories sociales. C'est-à-dire que la capacité en calcul baisse presque aussi vite chez les enfants de cadre supérieur que chez les enfants d'ouvriers. Vous voyez, et donc il y a la fécondité qui a fini par baisser à cause de la baisse du niveau de vie qui est générale à part les 1% supérieurs. La baisse de fécondité, elle a successivement touché... les quartiles de la population, enfin, c'est-à-dire le quart le moins privilégié, puis le quart suivant, puis le quart suivant. Donc, une autre évolution homogène. Et donc, on a vraiment, on voit une sorte d'esprit du temps dans la société française. Un esprit du temps qui va vers l'homogénéisation.
Mais avec une baisse du niveau de vie.
Une baisse du niveau de vie général, qui évidemment fait passer les groupes à des dates différentes au-dessous de la ligne de flottaison. Et donc, avec un modèle homogène comme ça, et avec ce phénomène de décalage des dates de passage au-dessous du seuil de survie, si on peut dire, vous êtes extrêmement bien armé pour comprendre le phénomène gilet jaune, qui s'est produit sur l'ensemble du territoire, avec des déplacements très rapides sur l'ensemble du territoire, mais qui n'a touché dans ça, je dirais, dans son cœur actif, que les gens les plus pauvres. Sur les ronds-points, c'était 1000 euros par mois. Les manifs dans Paris, c'était, ou ailleurs, c'était 1400 euros par mois. Et donc, c'était tout le territoire et toutes les périphéries de tous les centres-villes. Et puis, il y avait ce phénomène d'approbation majoritaire par 70% de la population, comme s'il y avait 70% des gens qui sentaient que le destin des Gilets jaunes était leur destin à venir. Et donc le modèle, quand même, est assez opératoire pour comprendre l'histoire récente.
Alors, baisse du niveau de vie, il y a les inégalités, mais vous mettez en exergue donc cette baisse du niveau de vie, et c'est un changement, en fait, des catégories socio-professionnelles en France. En fait.
C'est pas tellement un changement, c'est que...
Une redéfinition, en tout cas.
J'ai utilisé les catégories socio-professionnelles de l'INSEE, mais pas de la manière conventionnelle. Je les ai rebaptisées d'abord en hommage à Marx... en leur donnant ce que j'appelle leur nom véritable. Et ces catégories existent. Je ne suis pas certain de les avoir fondamentalement transformées, mais je les montre en état de fausse conscience. Donc, par exemple, la caste supérieure. Tout le monde est persuadé qu'on vit un capitalisme mondialisé effroyable, que les gens qui ont soutenu Macron sont des capitalistes. Je dis non, tout ça c'est centré sur l'État, c'est tous ces inspecteurs des finances. Et je ne parle pas, comme Marx, d'une aristocratie financière, mais d'une aristocratie stato-financière. Au-dessous, vous avez les gens qui ont voté Macron, les cadres et professions intellectuelles supérieures, CPIS. Je dis non, leur niveau de vie baisse, les jeunes s'entassent dans 45 mètres carrés là où ils peuvent. Ce ne sont pas du tout des winners. Donc si je fais du mauvais esprit, je les appelle, non pas des winners, mais je les appelle les losers d'en haut. Et si je suis sur une typologie rigoureuse et en hommage à Marx, je l'appelle petite bourgeoisie, ceux qui sont. Et puis j'identifie surtout, alors peut-être, mais ça a été fait mais d'une autre manière, une masse centrale atomisée de 50% de la population, qui n'est nullement polarisée par le conflit Le Pen-Macron, qui ne sait pas qu'il existe, et qui ne correspond pas à l'idée des classes moyennes d'autrefois, parce que c'est un monde qui s'appauvrit aussi. Mais c'est aussi un monde très moderne, féminisé, où les évolutions sociétales sont les plus avancées, où l'incidence de l'homosexualité est la plus forte. Il y a très peu de différence entre les couches sociales pour l'homosexualité, mais c'est quand même là que c'est un peu plus fort. Et puis il y a le prolétariat en bas, que je rebaptise prolétariat. Vous voyez ? Donc c'est une... Je ne pense pas avoir fondamentalement changé la description de la société, mais j'essaye de le débarrasser de la fausse conscience, de que les gens ne se prennent pas pour des gagnants quand ils sont des perdants. Je montre qu'il y en a qui ne savent pas qu'il existe. Pour les ouvriers qui votent Le Pen, je parle d'un prolétariat avec une conscience suicidaire parce que ça ne sert à rien. C'est plutôt l'esprit de ces groupes que j'ai changé.
Emmanuel Todd, vous parlez aussi de l'immigration. Vous dites qu'il faut arrêter de se focaliser sur l'immigration arabe du Maghreb. Il faut plutôt observer avec attention l'assimilation des Africains en France.
Ah non, alors, en fait, moi, de toute façon, j'ai pas de...
C'est une observation que...
C'est-à-dire qu'en fait, les Français sont focalisés sur la question arabe à cause de... Il croit que c'est à cause de l'islam. Oui. Moi, je pense que c'est à cause des structures familiales, de cette différence culturelle. Et je ne parle de l'immigration africaine qu'en un sens positif.
Oui, c'est à vous parler d'assimilation réussie.
Pas parce que, le taux de mariage mixte des femmes africaines ou d'origine africaine en France est extrêmement élevé. Et ça oppose d'ailleurs polairement la France aux États-Unis. Puisqu'aux États-Unis, le tabou maximal est sur le mariage avec les femmes noires. Et donc là, on peut dire... Ça, c'est sûr, les Français ne sont pas des Américains. Mais en ce qui concerne les populations d'origine maghrébine, je suis un réaliste. C'est-à-dire, je ne suis pas comme les gens qui disent « Mais non, il n'y a aucun problème, tout va bien. Enfin, » Déjà avec Le Bras, dans le précédent livre, Le Mystère français, on avait noté un léger freinage de l'intégration. Donc le taux de mariage mixte, qui était élevé, n'augmentait plus. Mais ce que je fais dans ce livre, je rappelle, c'est absurde, et c'est presque ouvrir la voie au scénario affolant que de dire il n'y a aucun problème, puisqu'on voit bien qu'il y a des phénomènes de concentration de population. Ce que je fais deux choses dans le livre. C'est-à-dire que, d'abord, je rappelle que les différences de fécondité pour les immigrés de première génération ne sont pas supérieures, comme je le disais tout à l'heure, à ce qui existait entre la Vendée et la Seine-et-Marne en 1900, ce qui remet les choses à leur place. Et puis, il faut comprendre d'où vient ce freinage de l'intégration. C'est pas... Là, les gens, spontanément, se diraient « Ah non, ces gens sont très différents, ils refusent de s'intégrer. » Et moi, je dis « Non, pas du tout. Ça marchait très bien au départ, mais la société française est bloquée par son insertion dans les règles commerciales de l'Union européenne. Elle est bloquée par l'euro, elle est paralysée. Chaque groupe, la mobilité sociale a cessé. Et en fait, c'est l'adhésion à un modèle européen et économique paralysant qui empêche ou freine le processus d'intégration. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut aussi donner la cause des difficultés. Et je peux prédire que si on reste dans l'euro, alors effectivement, mais si vous voulez, les gens d'en haut se referment aussi sur eux-mêmes. Tout le monde se referme sur soi-même.
Alors on va reparler des gens d'en haut, parce que vous faites aussi une étude de la transformation politique du pays, de la France, depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui. Et là, vous, justement, vous qui dénoncez Maastricht et l'euro, déplorez que le président français n'ait plus de prise sur la politique économique de...
Le livre est un livre de dévoilement, en fait. Oui. Donc, on parlait de la fausse conscience des classes. Et là, c'est ce que j'appelle le dévoilement concernant le débat sur la démocratie. C'est-à-dire qu'on accuse des populistes de vouloir subvertir la démocratie. On s'inquiète de voir les gilets jaunes de demander le référendum d'initiative citoyenne. Et puis, on présente le Front National comme une menace pour la démocratie. Je considère d'ailleurs que cette accusation est tout à fait légitime, car un parti qui définit une bonne partie de la population de nationalité française depuis plusieurs générations comme pas vraiment française, est un parti antidémocratique. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais les gens qui font ça font comme s'ils défendaient la démocratie. Et c'est complètement ridicule. La démocratie, c'est pas... C'est, pour moi, c'est trois choses, la démocratie.
C'est fragile, déjà.
C'est fragile, mais avant de voir si c'est fragile, non, de toute façon, ça n'existe plus pour moi en ce moment. Donc évidemment, si vous me dites c'est fragile, je veux dire, dans la mesure où moi je considère que ça n'existe déjà plus, je vais vous dire oui,
c'est
absolument.
Très fragile alors.
Non, je dirais pas c'est fragile, je dirais c'est cassé. Oui, vous voyez, c'est
oui.
Vraiment.
Oui, parce que vous dites.
Mais je voudrais quand même terminer là-dessus, parce que les gens ont des illusions. C'est la démocratie, c'est bien entendu la liberté d'expression. On l'a encore à peu près. Après le passage que j'ai fait à France Culture et France Inter, c'est Radio d'État, je trouve qu'on l'a un peu moins qu'avant, quand même. C'est la possibilité de voter à bulletin secret. On l'a toujours. Mais c'est aussi la possibilité de voter pour des individus et des partis qui ont une capacité d'action sur la société ensuite. Et la capacité d'action sur la société, c'est d'abord économique maintenant. Et depuis l'entrée de la France dans l'euro, en 99, s'ajoutant aux règlements européens qui interdisent une politique commerciale autonome et bien d'autres choses, en fait, les gens qui sont élus par les Français n'ont pas de pouvoir économique. Donc, on ne peut plus appeler ça démocratie représentative.
Vous dites que l'euro a tué, finalement, la démocratie représentative en France.
Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que maintenant, je dis ça, et les gens se disent « Ah !» Quel provocateur. Mais ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que là, je ne prétendrais pas être un chercheur innovant, parce que c'était tout à fait explicite dans le débat de 92 sur Maastricht. Je veux dire, Séguin expliquait ça. Oui. Et donc, c'était dans le débat. Et les gens qui ont fait Maastricht savaient qu'ils liquidaient la démocratie représentative. Ce qui est extraordinaire, c'est la capacité d'oubli, je dirais, des Français, de la société française, de ce débat qui a déjà eu lieu. Mais Séguin avait annoncé que ça serait la fin de la démocratie. C'est la fin de la démocratie. Ça aurait été sympa qu'il reste dans l'opposition et qu'il ne se contente pas de postes honorifiques octroyés par Chirac ensuite. Mais quand même, ce qui s'est passé valide les grands discours de Séguin en 1992.
Et vous, Emmanuel Todd, vous dites que finalement, nous avons affaire sur le plan politique à une comédie depuis des années, en fait. Bah, de comédie politique.
Mais c'est le drame permanent. Parce qu'on peut parler, on a des élections, il faut voter. Et donc, il faut dire des trucs. Mais le type qui va être élu ne pourra rien faire. Donc ça donne... la comédie Chirac, c'est... Ce que je l'ai appelé dans le livre, le problème, ça n'est pas l'euro, c'est l'islam. Ils finissent tous par parler de l'islam et des musulmans parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Donc ensuite, on a Hollande qui nous joue la pièce de théâtre de boulevard de seconde zone. Je vais être un mec normal. Comme je dis élégamment, souvent, non, subnormal, peut-être. Mais bon, voilà. Il finit d'ailleurs, après l'abominable attentat contre Charlie, il finit dans des projets concernant l'islam, les déchéances de nationalité, etc. Alors Macron, il arrive en disant, moi, la comédie Macron, c'est je suis jeune. Mais au final, ça donne toujours la même chose. C'est l'incapacité à agir. Parce qu'il y a ce carcan monétaire, ce carcan commercial. Et cet été, Macron, comme les autres, s'est mis à parler de l'immigration, il y a encore quelques semaines, avant que le terrain ne soit bouché, si on peut dire, par le coronavirus, il était parti sur le séparatisme, ils finissent tous par parler de l'islam, parce qu'ils ne peuvent rien faire économiquement.
C'est d'autant plus fâcheux que la situation que vous décrivez dans la première partie sur le plan social est alarmante.
Ah ben, c'est-à-dire qu'il faudrait, il y a un pays à sauver. C'est-à-dire que la France est en chute libre, son économie est en chute libre, le niveau de vie baisse. Alors, Encore une fois, je ne suis absolument pas en train de dire que la sortie de l'euro serait la panacée.
C'est la question que j'allais vous poser.
Non, je vais même être d'une franchise absolue. Comme j'ai été l'autre jour, j'ai fait une conférence à Sciences Po sur le sujet, mais la sortie de l'euro, d'abord, elle ne pourrait se faire qu'avec l'appui des Américains. C'est un péché extraordinaire pour la gauche bien pensante, même si elle est anti-européenne. Mais la sortie de l'euro, dans un premier temps, produirait vraisemblablement une chute temporaire du niveau de vie dans le processus d'ajustement. Simplement, elle recréerait une situation où les Français seraient entre eux, pourraient remonter leurs manches, résoudre des problèmes et repartir vers le haut. Vous voyez, c'est ça. Mais tant qu'on est dans l'euro, eh ben c'est ce qu'il faut imaginer, c'est une image d'une lente perte de substance qui n'en finit pas. Mais je crois que j'ai la comparaison dans le livre, c'est le dilemme qu'ont souvent les personnes à certain âge. Est-ce qu'on se laisse mourir ou est-ce qu'on prend le risque d'un triple pontage?
Oui. Hein, c'est quelle alternative?
C'est non, en général, parce que maintenant, comme la cardiologie a fait des progrès immenses, tout le monde choisit le triple pontage. Donc je propose, pour pousser la métaphore au bout, que on sort de l'euro et puis on a 2-3 ans très durs et puis ensuite on repart avec une histoire nationale.
Emmanuel Todd, vous êtes très sévère avec Emmanuel Macron en particulier, qui est un président d'un type nouveau. Vous dites, là je vous cite, la sublimation de Macron en génie de la pensée par une partie considérable des Français d'en haut constitue un problème sociologique central.
Oui, bien sûr. Mais ça, à mon avis, c'est une... Je pense qu'on a une... Je pense que mon livre est en fait très sympathique ou empathique pour les groupes d'en haut, pour les classes supérieures. Parce que moi, je les vois comme en échec. Je les vois torturés par le ridicule qu'ils ont eux-mêmes créé. Oui, je pense que c'est pas rigolo pour les gens qui ont inventé l'euro d'avoir amené ça. En plus, ils ont perdu leur pouvoir en Europe. Maintenant, on est devenu une sorte de pays de deuxième zone face à l'Allemagne. Donc, il y a de grands doutes qui planent sur l'intelligence des gens d'en haut. D'ailleurs, on a vu d'ailleurs ce que ça donnait, la confrontation entre l'intelligence des leaders gilets jaunes et l'ineptie des gens des cabinets autour de Macron pendant la révolte. Et donc, je pense que cette obsession de l'intelligence de Macron est une sorte de projection collective d'un groupe dominant qui a compris qu'il n'était pas très intelligent. Vous voyez, c'est pas dirigé contre Macron, oui, c'est pas sa faute. Quand on lit les textes de Macron, son livre là dont j'ai déjà oublié le titre, mais que je commente dans mon bouquin, Révolution, ça s'appelle, ça fait rire maintenant, ça tout fait rire au bout de quelques mois. Il se présente très modestement comme un type qui a raté des concours. Il n'est pas du tout arrogant lui intellectuellement. Ce qui est intéressant, c'est pas l'intelligence de Macron, c'est que les gens aient voulu s'imaginer qu'il était supérieurement intelligent, contre l'évidence.
Oui, mais vous dites quand même, vous ajoutez l'élection d'Emmanuel Macron, candidat surprise sans parti, moins soutenu qu'on l'a dit par les grands patrons et les banques, s'explique donc mieux par le vide. Le vide.
Oui, mais oui, par le désarroi. Mais en fait, si vous regardez, je pense que les classes moyennes supérieures françaises sont dans un grand état de doute. C'est-à-dire qu'on voit bien que toutes les croyances d'autrefois ne marche plus, on voit bien que l'Europe ne fonctionne plus, on voit bien que le libre-échange ne fonctionne plus, on voit bien qu'il y a plus que les croyances religieuses, politiques ont disparu, les partis politiques ont disparu, en fait les gens pour exister ont besoin, pour qu'une une personnalité pour se structurer a besoin d'un cadre collectif. La langue qu'on parle est notre langue. Là, on est en train de parler en français. On est deux individus, mais on est aussi deux individus qui partagent une langue. Et on existe l'un par rapport à l'autre. Et là, on est dans un monde où il n'y a plus de croyance collective. Les gens sont perdus. Et je perçois les classes moyennes supérieures françaises comme parcourues de frissons d'angoisse. C'est-à-dire que l'emballement psychique qui a suivi l'attentat contre Charlie, je ne suis pas du tout en train de sous-estimer l'horreur, mais la façon dont dont les classes moyennes supérieures françaises se sont engouffrées dans ce problème pour le dramatiser plutôt qu'avoir une attitude calme. Alors peut-être je fais une apologie du self-control britannique, mais voilà, c'est ça. Et l'emballement pour Macron, mais moi je voyais Macron à la télévision, je me disais, mais je veux dire, tout ce qu'il raconte est juste totalement dépourvu d'intérêt. Et je le voyais qu'il parlait avec l'air halluciné, et puis je voyais les gens qui l'écoutaient avec l'air halluciné, et parler aux gens. Et moi je disais à mes copains, moi je suis dans un milieu d'universitaires et journalistes, moi je fais tout à fait partie de cette petite bourgeoisie. Et j'en disais, mais quand même, il n'a pas l'air bien fut-fut, ce type. Et les gens me disaient, comment, mais c'est un péché de...
Pourtant, Emmanuel Todd, beaucoup disent que le président Macron, Emmanuel Macron, est tout puissant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est seul, il dirige tout, il décide de tout.
Et... Ah, mais il dirige tout, c'est-à-dire qu'il dirige tout. Je veux dire, du point de vue constitutionnel, en France, c'est le problème de la Ve République, le président a tous les pouvoirs.
Mais accentué par cette personnalisation à l'extrême.
Oui, mais non, je pense que ce qui accentue le sentiment d'un pouvoir absolu de Macron, c'est qu'on est au bout du bout, les partis politiques ont explosé, donc il n'y a plus de frein par les partis politiques, qui sont dans la Constitution censés contribuer à l'expression du suffrage et au fonctionnement du système. Donc il est tout seul. En fait, ça veut dire, comme il représente l'administration, l'autre administration, que l'État est en roue libre et fait ce qu'il veut.
Et vous soulignez le poids de l'État, hein, d'ailleurs.
Ah bah, c'est-à-dire l'État, mais pas au sens... C'est pas, moi, je suis pas dans l'attitude du MEDEF qui dit « c'est affreux, l'État pompe trop d'impôts ». Moi, je suis tout à fait partisan de l'État social. Mais là, quand je parle d'autonomisation de l'État, en suivant Marx d'ailleurs, c'est d'un État qui n'est plus contrôlé par les partis politiques. C'est tous des hauts fonctionnaires. Aux commandes.
Mais vous avez la dent dure avec les inspecteurs des finances en particulier.
Mais c'est eux le pouvoir. C'est eux le pouvoir. Et c'est eux qui se font de l'argent en plus. Et Macron est un inspecteur des finances. Donc ils sont à Bercy, puis ils vont dans les banques. C'est la réalité du pouvoir. Mais le problème du pouvoir de Macron, c'est qu'il est très très grand, mais il ne peut pas s'exercer à l'échelle mondiale, européenne. Il est devenu insignifiant. C'est les Allemands, les patrons. Il fait marrer les Américains. Alors lui, il gère ça sur un mode, je dirais, psychologique assez particulier, ce de taper dans le dos de Trump, vous voyez, d'être grossier avec Poutine à une époque. Alors avec Angela, il était plus prudent quand même, hein, il voulait des bons points et tout ça. Mais par contre, sur la société française, le pouvoir est colossal. Et c'est pour ça que j'interprète l'action de notre gouvernement sous la présidence de Macron, avec la hausse des taxes sur les produits pétroliers, etc., avec la liquidation du système des retraites français traditionnel, sans bien définir d'ailleurs ce qui va suivre, comme des actes de vengeance sadique sur la population, mais typique d'une classe dirigeante qui, à l'échelle internationale ou européenne, est devenue complètement impuissante. Mais pour moi, alors je reconnais que Macron est un personnage historique en ce sens qu'il incarne particulièrement bien cette tendance des classes supérieures ou du haut de l'appareil d'État. Mais je fais des blagues sur Macron, c'est vrai, je peux pas m'empêcher. Oui. Mais j'excuse, on a le même prénom et c'est dur pour moi. Vous voyez, je veux dire, à l'époque où moi j'avais des petits-enfants qui se moquaient de moi en m'appelant Emmanuel Macron, c'était quand même dur. Donc j'ai droit à un minimum de vengeance.
Vous dites, Emmanuel Todd, qu'après le grand débat, après les manifestations des Gilets jaunes, on aurait dû l'appeler le grand monologue parce qu'il avait quelque chose d'orwellien par sa logique d'inversion du réel.
Mais c'est parce que encore une fois, j'en reviens à cette notion de vide collectif dans les classes moyennes supérieures. C'est-à-dire que Macron éprouve le besoin, ce besoin logoréique de parler tout le temps tout seul. Après tout, chacun son truc. Ça peut m'arriver aussi. Mais la société française ne me laisse pas libre de le faire. Et là, ça s'est fait. Et ça n'a pas été critiqué par les médias comme ça aurait dû l'être. Les gens ont parlé du grand débat, qui était un grand monologue, comme quelque chose de normal. Et là, à ce stade, on peut se demander si la France peut encore... Alors, démocratie représentative, certainement pas. Oligarchie libérale, peut-être. Mais libérale, quand une société est capable... Je ne sais même pas si les Russes... Je ne pense pas que les Russes subissent ça de Poutine. Vous voyez, des discours...
Beaucoup vont dire que vous exagérez largement.
Mais je ne sais pas, là je dis, j'aimerais que des chercheurs fassent une étude quantitative de la quantité de mots que Poutine est capable d'infliger à sa société par rapport au nombre de mots que Macron est capable d'imposer la société. Mais là, ce que je propose, c'est un programme de recherche. Moi, je suis un chercheur et je ne vais pas avoir la force de le faire. Mais tous les jeunes chercheurs de Sciences Po devraient être en train de calculer des indicateurs d'occupation de l'espace médiatique par les diverses autorités. Vous voyez ?
Comment donc en sortir, Emmanuel Todd ? Le constat est assez pessimiste. Vous dites en plus que c'est un cycle se termine, le cycle de 68 se termine. En fait, il s'agit tout simplement, si j'ose dire, de reconstruire une nation. Non ?
Il s'agit de larguer les amarres et de se retrouver entre nous Français. Alors quand je dis entre nous Français...
Ça va faire tiquer beaucoup de nos auditeurs, ça. Entre nous Français.
Oui, mais ça veut dire entre nous Français, ça veut dire en considérant... Alors la base peut dire entre nous Français... pour moi, entre nous Français, ça inclut tous les gens d'origine maghrébine ou africaine qui sont sur le territoire national. C'est-à-dire que la France a besoin de se retrouver en tant que nation, de se refaire des forces économiques. Mais la première condition, c'est d'arrêter de dire que les Français d'origine étrangère, un peu lointaine, exotique ou bronzée, ne sont pas des Français. Donc je pense que ça devrait aller pour vos auditeurs. Je veux dire, tous les pays ont le droit de contrôler leurs frontières. Donc il y a l'idée d'une nation qui inclut très fortement ou qui renouvelle même son pacte avec ses citoyens d'origine étrangère un peu lointaine. Et puis ensuite il faut reconstruire et puis bien entendu garder les liens qu'on a avec tous les pays parents ou la langue française. Et d'ailleurs, en vérité, de mon point de vue, c'est pas des choses auxquelles je pense. C'est dans le contexte vous m'y faites penser. Moi, une partie de mon opposition à l'Europe, elle vient du fait que je considère que...
À l'Europe telle qu'elle est conçue aujourd'hui.
À l'Europe telle qu'elle est conçue aujourd'hui, c'est que le bon destin pour la France, ça n'est pas de s'imaginer qu'elle est une deuxième Allemagne. Ou de vivre une sorte d'amour irréfléchi, de passion germanique. Le destin de la France, c'est de rester proche des pays, par exemple, d'Afrique, qui parlent français. Vous voyez ? Et bien entendu, le concept européen est dirigé contre cette association de la France avec, j'aime pas parler de son ancien empire, mais il y a eu quelque chose comme ça, qui a créé une sorte de fraternité, de cousinage, je ne sais pas comment l'appeler. Bon, ça a été fait dans des conditions extrêmement discutables,
oui.
Mais ça existe. Mais le territoire français lui-même, pour réunir l'Occitanie, on a massacré les Albigeois. Et puis on a massacré les Vendéens. Et maintenant, les Vendéens et les Albigeois sont des Français, vous voyez. Donc ça, c'est une départ, mais ça va être très dur.
Donc il faut faire en France ce que Boris Johnson a fait pour la Grande-Bretagne, non ?
Bah oui, sauf que c'est plus facile pour les Anglais, parce qu'ils ont des élites respectées, parce qu'ils sont moins dans le rêve. Je dis les Anglais, c'est une sorte d'universel concret, c'est-à-dire qu'ils ont inventé le roman policier, la révolution industrielle, la science-fiction, la démocratie représentative, mais ils pensent vraiment qu'ils sont super anglais. Vous voyez, les Français, ils ont moins produit d'universel concret, mais ils ont cette idée a priori d'un universalisme, mais quand on est un pays de 65 millions d'habitants comme la France maintenant, qu'on n'est plus maître du monde, l'universalisme c'est plus compliqué, il faut être plus modeste. Vous voyez, donc c'est compliqué. Pour les Français c'est très compliqué. Et puis on est dans l'euro. Les Anglais n'étaient pas dans l'euro. Vous voyez. Et puis c'est pour ça que je parle d'un cycle de 50 ans. C'est-à-dire, je dis pas, c'est facile, hein, parce que je serai plus là dans 50 ans. Donc si je me suis planté en termes de prédiction.
Il y aura toujours quelqu'un pour le faire remarquer.
Oui, mais honnêtement, là où je serai, je ne pense pas que ça me préoccupera énormément. Mais je dirais que la première chose encourageante, c'est que le traité de Maastricht était un vote extraordinaire pour définir la fin de la France. En fait, c'était l'idée de la dépasser dans l'Europe. Ça a été voté. On a fait l'euro. Le franc n'existe plus.
Et en plus, on a voté
l'abolition du peuple français. Et hop, ensuite, au bout du compte, d'accord, c'est accepté, mais on a des luttes, les gilets jaunes, c'est-à-dire des luttes de classe typiquement françaises.
Qui montrent que le peuple français continue
d'exister. Qui montrent que le peuple français continue d'être capable de dire merde à ses dirigeants, ce qui est pour nous notre véritable identité nationale. Vous voyez, moi, j'ai une vision réconciliée du, du sentiment national et de la lutte des classes.
Emmanuel Todd, vous avez dit que vous étiez intéressé par un certain aspect de l'œuvre de Marx, mais vous terminez votre livre, votre essai, qu'il faut lire, parce qu'il est revigorant, c'est le moins qu'on puisse dire, en parlant du christianisme des origines.
Ben, c'est-à-dire que j'ai pas, alors moi je ne suis pas croyant, mais je suis hautement conscient, enfin, je ne suis pas croyant, mais les incroyants, comme je dis toujours, les gens qui sont sûrs de l'inexistence de Dieu, comme s'ils en avaient été informés par un télégramme personnel venu dans ces eaux, m'énervent encore plus que les croyants, qui ne m'énervent pas du tout d'ailleurs en fait. Voilà. Mais je, personnellement, je ne suis pas croyant, je ne peux pas croire, c'est au-dessus de mes forces. Mais je suis capable de voir la gravité de la disparition des croyances religieuses. Les croyances religieuses ont structuré l'espace politique français. Même les laïcs étaient des gens qui étaient arc-boutés contre ce qui restait de catholicisme, et la morale laïque était un décalque, en fait, de la morale chrétienne. Et donc, j'ai des mots sympathiques, je dirais, et donc je dis bien que, pour moi, les problèmes, la solution des problèmes ne va pas être technique, c'est pas juste sortir de l'euro, c'est se retrouver entre soi, se retrouver des croyances collectives. Donc je pose cette question, je dis, mais on a un problème de vide religieux, mais je dis quand même, donc c'est plein de respect pour la religion d'une certaine manière, je dis que le bon christianisme, pour moi, c'est celui des origines ou celui d'avant 89, je parle de christianisme pontifical, de l'infaillibilité, d'après la Révolution française.
Saint-Paul, le christianisme de Saint-Paul.
Voilà, et puis je dis, la Révolution française, regardez, elle s'est faite dans l'espace des cathédrales du bassin parisien. Edgar Quinet avait remarqué ça, mais au final, je dis quand même que, raisonnablement, la seule foi collective qui soit pensable dans une période de difficulté économique, de déclin, de doute, etc., j'ose le dire, ce qui pour un type de ma génération, je vais le dire, je vais le prononcer, est très extraordinaire, c'est
68ard.
Pour un 68ard qui s'est vraiment marré, de ce point de vue-là, même si j'étais membre du Parti communiste à l'époque, mais je vais dire un truc que j'ai du mal à dire, mais que j'ai besoin de dire, la seule possibilité, c'est l'amour de la patrie. Et que pour un type de ma génération, arriver à dire une chose pareille, je m'entends le dire, je le dis avec plaisir.
C'est assez fascinant, effectivement.
Mais je l'ai écrit dans le livre. Je me libère de quelque chose, je délivre un message sans grand espoir, mais je me dis, mais qui suis-je? Où vais-je?
Merci Emmanuel Todd, merci pour votre liberté d'esprit qui en agace plus d'un, mais continuez dans cet état d'esprit justement. Votre livre s'intitule « Les luttes des classes ».
Merci beaucoup en tout cas.
Votre livre s'intitule « Les luttes de classe en France au XXIe siècle ». Il est publié au Seuil, idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante.
Idée au pluriel, @rfi.fr.
Nous vous donnons rendez-vous samedi pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées, dans un instant un nouveau journal sur RFI.